Alors voilà un livre pour nous rappeler que la virilité n'est pas qu'une affaire d'homme. Viril comme Vénus, et vous mettrez un E, ES même, à viril. Viril comme Vénus, c'est le titre de votre dernier livre paru aux éditions des Équateurs. Bonjour Mariette Darrigrand.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, on va le rappeler, sémiologue. Débat donc ce matin autour de ce mot viril, hein, qui provoque, et on le voit dans le livre, pas mal de débats, de polémiques, de débats intergénérationnel, comme avec votre nièce Violette dans ce livre. On va définir le concept, la virilité. Alors, tel que vous l'écrivez, la virilité, c'est d'abord une énergie vitale, c'est-à-dire.
Alors, moi, je me suis dit dans le langage, hein,
Bien
mon
sûr.
métier, ça consiste à regarder comment nous parlons dans notre société, puis à essayer de voir d'où ça vient. Alors, virilité, c'est un mot qui circule beaucoup, qui est plutôt négatif aujourd'hui. Hein, plutôt confondu à
Belliqueux.
belliqueux, rapporté à au combat, au débat très difficile dans lequel nous sommes souvent très enfermés, etc. Et à mon avis, ça le transforme complètement, ce mot qui, à l'origine, comme vous le rappeliez là, est tout à fait positif, non genré. C'est une énergie liée à la nature. Là, ça vient d'un mot latin vis, hein, vis, qui donnera virilité, mais qui donnera par exemple aussi vertu. La vertu, qu'est-ce que c'est? C'est une manière d'être, hein, physique et mentale, hein, positive, on va dire. On est prêt à faire des choses. L'équivalent, ce serait, pour les gens qui s'intéressent à la culture asiatique, ben le chi, peut-être l'énergie vitale chinoise, ou le prana, le souffle. Alors, ça nous vient du monde latin. C'est très important parce que nous sommes héritiers pour toutes ces questions de masculin-féminin et de politique, parce que ça va ensemble. Ben, nous sommes héritiers du monde latin, pas tant que ça du monde grec sur ces sujets-là. Hein.
Et pourtant, vous parlez beaucoup des Indo-Européens, donc des Grecs plutôt, non?
Alors, non, les Indo-Européens, c'est avant le monde grec et latin. C'est vraiment une sorte de préhistoire culturelle. Et c'est passionnant à regarder parce que là, on a des racines qui sont communes, mais ça va justement du français ou de l'espagnol, enfin nos langues romanes, à l'indien, à l'hindi. Et là, on a déjà la virilité.
Et pour s'étriper sur ce concept de virilité, en gros, hein, il y a deux grandes familles qui s'opposent. D'un côté, les virilistes, avec ce côté belliqueux que vous évoquiez. Et puis de l'autre, ceux qui sont prêts à partager cette énergie. C'est comme ça qu'on sépare un peu les deux grandes familles pour débattre de la virilité.
Exactement. La virilité, dans notre société aujourd'hui, elle est confondue très souvent avec le virilisme. Ça a été souvent le cas chez Jean-Marie Le Pen. Il l'a encore rappelé, hein, après les élections régionales. La France, ma fille, a manqué de virilité. Non, selon lui, le débat public, comme ce que dit aussi Éric Zemmour depuis longtemps,
on va en parler en fin d'interview de tout ça. Oui,
voilà.
Oui.
Donc, on a confondu quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie positive que les hommes et les femmes peuvent incarner, hein, avec l'excès et de virilité qui est un virilisme et un masculinisme, une espèce de vision de domination extrême du masculin sur le féminin, et ça évidemment je m'inscris complètement en faux là-dessus. Mais l'idée, c'est que précisément pour lutter contre cette déviance, il faut que les femmes se réapproprient la virilité à laquelle elles ont droit.
D'ailleurs, comment ce concept de virilité a réémergé à la faveur du mouvement MeToo?
Alors, le mouvement MeToo a dénoncé les crimes sexistes, donc il fallait absolument ce mouvement-là, hein, je dirais, pour montrer l'étendue des dégâts quand même. Hein. C'est un peu comme le rapport Sauvé, là. Il faut montrer absolument l'horreur de la violence. Mais, à mon avis, 4 ans plus tard, nous devons faire attention de ne pas, cet effet de masse, de ne pas en faire un effet de meute, si vous voulez, où tout d'un coup, les hommes, comme ça, par un a priori, seraient déclassés, seraient des prédateurs en puissance, etc. Parce que non seulement c'est mauvais pour eux, mais je crois que c'est mauvais aussi pour les femmes, parce que les femmes ont toujours eu tendance, et ça c'est là le trésor que nous avons nous en Europe, hein, les femmes sont toujours protégées par la mixité de la société. Quand la société cesse d'être mixte, qu'elle soit dominée par le masculin ou dominée éventuellement par un féminin en plus calqué, bah c'est très mauvais. Donc moi, je fais ce livre pour essayer d'ouvrir quelque chose sur le vivre ensemble.
Et d'en parler ensemble, exactement.
Comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation actuelle, Mariette Darrigrand ? Vous nous expliquez que chez les Latins, la virilité n'était pas l'apanage des hommes. Elle l'est devenue au cours des siècles. Comment s'est opéré ce glissement ou ce détournement ?
Bah, écoutez, vous n'ignorez pas que le monde a été raconté du point de vue masculin. Ça, je ne le conteste pas. Voilà. Donc, il y a cette force liée à la nature, on appelait vires, hein, les forces. Ça pouvait être celle des arbres, ça pouvait être celle des fleurs au printemps, toute cette énergie vitale que nos ancêtres, les Romains, sentaient dans leur propre corps, etc. Et bien sûr, comme c'était intéressant, ben, elle a eu tendance, cette force-là, à être captée en quelque sorte par les hommes. Donc très vite, ben, on a trouvé que c'était masculin, cette chose-là. D'où le mot vir, en latin veillère, qui dit homme. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que, en regardant la grammaire, en regardant les textes, il y avait des femmes viriles. Hein, il y avait. Alors tout ça, c'est entre le 5e siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ça fait quand même
un
bon moment.
Ça remonte un petit peu.
Ça remonte, mais ça fait un bon moment. Et puis là, arrive la fin de la République. Jules César, c'est pas que lui, hein, mais là, on a vraiment un pic de cette captation par l'armée romaine. Donc la virilité devient l'apanage des soldats, hein, des soldats. Et donc là, on tombe sur le virilisme autoproclamé. Et c'est là-dessus qu'il faut être très vigilant, parce que c'est cyclique, ça revient très souvent. C'est-à-dire une énergie positive, globale, est captée par les hommes pour en faire quelque chose de martial.
Et quand vous écrivez dans votre livre qu'il est temps de se réapproprier le phallus, alors qu'on ne se méprenne pas, parce qu'au-delà du sexe en érection, il s'agit d'abord de se réapproprier la parole agissante et lumineuse.
Bon là, je me suis amusée parce que lorsqu'on regarde l'étymologie du mot phallus, hein, là encore, ça n'a pour le moment, la très grande origine et justement les racines indo-européennes, rien à voir avec un sexe masculin.
Ce sont les feux divins.
Oui, c'est-à-dire que l'humanité se représente quelque chose qui illumine, qui gonfle et qui illumine. Et notre mot parler, la parole, viendra de ça. C'est-à-dire de cette étymologiquement, c'est comme une apparition divine, hein, de parole vraiment performative qui crée le monde. Donc c'est ça que j'ai voulu dire. Nous avons tout le monde, les femmes comme hommes, ont droit à exercer ce phallus du langage, mais là encore, à mon avis, sans être phallique, là au sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire castrateur et violent.
Le point de départ de votre livre, Mariette Darrigrand, ce sont les échanges que vous avez en famille, et vous nous dites que parmi les thèmes qui sont en ce moment dans l'actualité et dans le débat public, celui-là est devenu particulièrement inflammable. Vous en faites l'expérience personnelle et vous la partagez. Comment est-ce que ce terme de virilité est devenu précisément inflammable, explosif ?
Alors là,
pourquoi maintenant ?
Pourquoi maintenant ? Bah écoutez, je crois que c'est cet amalgame entre virilité et virilisme qui fait que je me suis retrouvée vraiment de manière, j'étais très surprise d'être attaquée en quelque sorte par ma défense de la virilité, parce que pour moi ce mot est référé à mon père, à maison qui joue au rugby. Je suis originaire du Sud.
Ouais.
J'étais tranquille avec cette notion, et j'ai vu que les jeunes femmes de ma famille, ma nièce en particulier, n'étaient pas à l'aise avec ça, et que pour elle, virilité, ça voulait dire violence masculine, violence sexuelle, et avec une espèce d'exagération des termes. C'est-à-dire que pour elle, par exemple, tout est parti d'une exposition magnifique, à mon avis, où on voyait des peintures libertines du 18e, hein, récemment dans Paris, l'Empire des Sens, et une peinture du peintre Boucher magnifique, hommage à sa femme, devenait viriliste, devenait une offense faite aux femmes, et devenait presque même la culture du viol. Donc là, je me suis sentie obligée de rappeler quelque chose, selon mon point de vue, bien sûr.
Parce que la parole viriliste est aujourd'hui plus présente que dans les années 70.
Oui, je pense. Oui, là, si vous regardez sur le plan, disons, des gouvernants, par exemple politiques, sont revenus des autocrates, sont revenus des empereurs, sont revenus des choses qui ont remis en cause, qui a été créé effectivement dans les années 60-70, hein, par ce qu'on a appelé la libération des mœurs, qui repose sur une mixité quand même. Les femmes ont pu prendre la parole quand même un peu, pas tant que ça, mais au fur et à mesure, c'est monté. Et nous venons de cette culture-là, disons, d'une douceur démocratique. Et cela a été attaqué, alors peut-être à partir du moment où notre monde a été attaqué de facto, c'est-à-dire le 11 septembre, des choses comme ça, qui ont été très traumatisantes pour la société, qui ont ramené une violence qui n'était pas prévue au programme. Nous vivions sur le plus jamais ça. Je mets ça en rapport, hein. Je pense que le macrocosme du monde, de la société, agit sur nos consciences individuelles au plus intime. Et à ce moment-là, certains ont pensé que dans un monde guerrier, difficile, instable, etc., il fallait remettre de la virilité guerrière.
C'est ce que fait Éric Zemmour dans ses discours masculinistes, et vous n'êtes pas surprise d'entendre ça aujourd'hui, donc.
Bah, écoutez, j'avais lu le premier sexe, hein, et justement, le mot viril était beaucoup dans ce texte, et Éric Zemmour parlait de revirilisation de la société en trahissant la virilité originelle que j'essaye de défendre aujourd'hui. Et ça n'a fait qu'empirer au fil. Il est très cohérent avec lui-même. Donc aujourd'hui, en effet, c'est ça qui le semble ramener. Mais il a été beaucoup question d'impuissance publique, par exemple, ou de redresser le pays. Toutes ces métaphores phalliques qui viennent de Le Pen, elles sont passées dans notre langue politique.
Comment vous analysez précisément les mots des femmes candidates dans cette campagne présidentielle, notamment les mots de Marine Le Pen, et peut-être son évolution entre ce qu'elle représentait ou ce qu'elle disait en 2017 et ce qu'elle dit aujourd'hui?
Ah ben Marine Le Pen, si vous voulez, elle a décidé d'abandonner cette parole-là guerrière. Hein, elle est passée de Jeanne d'Arc à Mère Teresa, là. C'est la petite mère des pauvres. Donc elle est dans la protection maternante. Elle s'est complètement édulcorée, adoucie, parce qu'elle pense que c'est comme ça qu'elle va rassembler les gens. Donc ça, c'est typique de Marine Le Pen, et la place laissée sur le pan de la virilité négative, ben Zemmour l'a prise. Si je prends Valérie Pécresse, je pense que Valérie Pécresse aussi est dans une posture guerrière parmi les candidats de la droite, et c'est probablement... je laisse Éric Ciotti de côté, mais par rapport à Bertrand ou Barnier, c'est la plus dure. Hein, donc elle est à sa façon, elle reprend le virilisme. Donc,
quand vous dites que Valérie Pécresse apparaît de façon plus masculinisée, je ne sais pas si on va mettre ça entre guillemets, que Marine Le Pen, qu'est-ce que vous mettez dans ce terme et comme attitude?
Alors, pas masculinisée au sens justement, Valérie Pécresse fait partie de la génération qui n'a pas eu besoin, ça c'est un positif de la modernisation des mœurs, elle n'a pas eu besoin de se masculiniser pour incarner le pouvoir. Elle est crédible comme candidate, mais elle est une femme féminine, elle est une mère, sa vie privée, bon voilà. Donc elle n'a pas eu besoin d'être une soldate, comme l'a fait Marine Le Pen. Hein.
Qu'elle a entre-temps décidé, Marine Le Pen, de dédiaboliser son parti, en même temps qu'elle apparaît il y a quelques jours à la télévision en prime time, avec un chat qu'elle câline. Enfin, il y a une autre image envoyée en ce moment.
C'est une image de mère gentille, là, quand elle est interviewée dans sa maison, voilà, avec une autre femme, c'est un monde de femmes. J'ai trouvé ça un peu curieux, hein, pour son positionnement. Mais bon, ça c'est son affaire. Elle a décidé, en effet, d'abandonner la posture guerrière viriliste. Donc ça, c'est pour sa stratégie de dédiabolisation. Le problème, c'est qu'elle laisse la place à Zemmour de ce côté-là. Et j'étais frappée en écoutant Valérie Pécresse, qu'elle ne soit pas non plus dans une posture de femme réconciliatrice. Voulant justement, notre société a besoin de recréer des liens entre non seulement les hommes et les femmes, mais les âges, les classes sociales, elle est très diffractée, donc il faut quelqu'un qui arrive à créer des liens. Elle ne s'est pas mise là-dessus, Valérie Pécresse, du tout.
Mariette Darrigan, vous êtes sémiologue, vous étudiez le langage, on a souvent la mémoire courte, ce début de campagne présidentielle nous paraît extrêmement violent dans les mots, dans les concepts, est-ce que c'est le cas par rapport aux campagnes précédentes, ou est-ce qu'on est un peu pris par l'instant et par le moment, si je puis dire?
Alors, on dit toujours que la violence était très forte, je sais pas, sous la Troisième République.
Oui. Bon.
Alors, moi, je pense quand même que si, il y a quelque chose qui est beaucoup plus violent dans cette campagne, c'est l'antagonisme, si vous voulez. Aujourd'hui, peut-être parce que droite et gauche sont brouillées, peut-être parce que notre monde est très instable, on recrée des polarités très fortes. Donc, voilà. Aujourd'hui, par exemple, j'étais frappée par la montée du mot « chaos ». Chez Mélenchon et chez Zemmour, mais ça fait déjà quelques mois.
Donc, un mot qui revient beaucoup.
Qui revient beaucoup, que les journalistes ont beaucoup repris. Aujourd'hui, vous avez beaucoup. Ah, la situation est chaotique, c'est le chaos dans tel aéroport parce qu'il y a une grève, ou c'est le chaos. Bon. Donc, il faut faire attention avec ce genre d'hyperbole, hein, d'exagération, très imagé. Mais c'est un mythe, le chaos. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il faut une grande explosion pour qu'après revienne l'ordre, l'ordre nouveau, le calme. Donc il faut se méfier avec ce type de métaphore. Je pense que c'est ça la violence de notre campagne.
Et est-ce que le « en même temps » d'Emmanuel Macron et l'histoire nationale qu'est en train de raconter le président à 6 mois de l'élection présidentielle, est-ce que ce « en même temps » ne fait pas la synthèse de cette virilité, c'est le thème de votre livre, cette virilité qui devrait être dont les femmes et les hommes devraient se réapproprier prier chacun une partie.
Mais vous avez dit en commençant que le mot viril devait s'écrire avec un E, même au masculin, masculin pluriel, au masculin. Voilà, c'est drôle. C'est-à-dire que viril sans E a été c'est une convention pure. C'est-à-dire, Rabelais écrivait un homme viril, comme on l'écrit en anglais. C'est important d'avoir ça en tête parce que c'est ce qu'on appelle un adjectif épicène, c'est-à-dire comme on dit fragile ou comme on dit narcissique, magnifique. Voilà. Donc il y a des adjectifs, il y a des concepts qui font le en même temps en chacun de nous et dans la société. Et aujourd'hui, notre société a besoin d'être virile, c'est-à-dire vaillante et vertueuse.
Et vertueuse.
Et oui. C'est-à-dire que la vaillance devant le monde instable devant lequel nous sommes, des échéances très dures, vraiment la France vit un moment complexe. Hein, donc on a besoin d'avoir du courage et de la vaillance physique, mais aussi un grand sens de la vertu.
Est-ce que ce sont toujours les mots les plus forts, qui paraissent les plus puissants, qui gagnent dans le débat public, Mariette Darrigrand ? Vous parlez de chaos, de violence, de déclin qu'on entend toujours. Si on arrive avec les mots calme, quiétude, par exemple, est-ce que ce sont des mots qui sont d'entrée décrédibilisés dans un débat, par exemple ?
Non, au contraire. Je pense que on aura plusieurs scénarios. Il y a peut-être des gens qui voudront le chaos pour aller plus loin et avec éventuellement la mythologie de recommencer après. Mais le chaos crée le besoin d'ordre et de calme au contraire. Donc c'est peut-être ça, ce sera peut-être ça la majorité des opinions, on verra.
Un dernier mot sur cette enquête de l'IFOP pour le magazine Elle qui a montré cette semaine que le sexe du candidat n'orientait plus le choix dans l'isoloir. Le pouvoir présidentiel en France qui n'est plus associé à des valeurs masculines, est-ce que cela vous étonne aujourd'hui, Mariette Darrigrand ?
Non, bah ça, écoutez, qu'on puisse avoir une femme présidente serait, pourquoi pas.
Oui, ça, je ne doute pas de ça, mais que ce soit pour les Français, que ce ne soit plus un obstacle.
Je pense que ils sont influencés par des figures de nouvelles femmes qui gouvernent, je pense.
Angela Merkel?
Pourquoi pas, Merkel.
Ou dans les pays baltes, peut-être.
Oui, voilà, dans les pays baltes, je pense à la première ministre moldave qui a tenu tête à Poutine. Je pense à Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande. Je pense à Catherine Jakob Stier, je crois, en Islande. Ce sont des femmes qui gouvernent de manière justement neutre, épicène, avec féminité et masculinité vraiment bien tempérées entre elles.
Viril ES, viril comme Vénus, votre dernier livre. Merci d'être venu en parler ce matin sur France Inter.
Merci
Mariette
beaucoup.
Darrigrand, c'est paru aux éditions des Équateurs. Merci et bonne journée.